Chapitre 2. L'unité du commandement. Sur quoi me suis-je fondé pour appeler le général Foch au commandement suprême? Les notes du général Mordac me permettent de suivre les batailles du futur chef des alliés. Après les combats de Lorraine le 29 août 1914, le général Foch quitte le commandement du 20e corps d'armée pour prendre celui d'un détachement d'armée destiné à couvrir plus efficacement la gauche de la 4e armée et à réaliser la soudure de celle-ci avec la 5e. Ce détachement deviendra bientôt la 9e armée, à la tête de laquelle le général Foch va prendre une large part à la bataille de la Marne. Le général Joffre, estimant la situation stratégique excellente et conforme au dispositif recherché, prescrit le 4 septembre au soir de reprendre l'offensive le 6 au matin et de concentrer sur la première armée allemande les efforts des armées alliées de gauche. Le 6 septembre, déclenchement général de l'attaque. La 9e armée est au centre. C'est là précisément que les Allemands portent leur principal effort. En réponse à la manœuvre de l'armée Mont-Nourrit sur la droite allemande, de Moltke fait donner à fond l'armée de Bülow et qui comprend la garde et les meilleures troupes de l'Allemagne sur le centre français et par conséquent sur la 9e armée. Cette armée est arrêtée dans son offensive. Il lui est impossible d'atteindre son objectif, la région au nord des marais de Saint-Gon. En fin de journée, elle emborde péniblement les débouchés du sud. La gauche, violemment attaquée, livre des combats acharnés à Mondement, division marocaine. La 42e parvient à rejeter la garde dans les marais de Saint-Gon. Le 11e corps d'armée, qui tient la droite, résiste péniblement aux attaques allemandes. 9 septembre, la situation devient grave, la garde prussienne enlève fer champenoise, les 9e et 11e corps reculent. Le général Foch, sans se laisser troubler par cette situation, rencontre au CQG et conclut « j'ordonne à nouveau de reprendre l'offensive ». Et en effet, renforcé du 10e corps d'armée, il lance une nouvelle contre-attaque sur fer champenoise. 10 septembre, il reprend l'offensive sur tout son front. Après des combats acharnés, fer champenoise est reprise. Les Allemands, dans la soirée, battent en retraite et sont refoulés au nord des marais de Saint-Gon. 11 septembre, la poursuite commence, facilitée par un corps de cavalerie, général de l'Espé, que le général Joffre met à la disposition du général Foch. On se dirige sur la Marne, que la 9e armée aborde le 12 septembre, entre Épernay et Châlons. On fait de nombreux prisonniers, on capture des vivres et des munitions en quantité considérable. Le haut commandement allemand avait donné l'ordre de retraite générale le 10 septembre au soir. Après la bataille de la Marne, l'état-major allemand avait aussitôt préparé une nouvelle manœuvre d'enveloppement contre l'aile gauche française. Le haut commandement français, de son côté, cherchait à envelopper la droite allemande, d'où les batailles de Picardie et d'Artois et la course à la mer. Dans les premiers jours d'octobre 1914, la situation pour les alliés était grave. Lille menacée par la cavalerie allemande, la Flandre ouverte, toutes les forces ennemies remontent de plus en plus vers le nord et menacent de crever le front d'un moment à l'autre. C'est alors que le général Joffre, le 4 septembre, confie au général Foch, dont la 9e armée est dissoute, la mission de coordonner toutes les forces engagées entre l'Oise et la mer. Armée de Castelnau et de Mauduit, groupe de division territoriale du général Brugère, troupes de la place Dunkerque. En même temps, l'armée anglaise est transportée dans les Flandres, région d'Hazebrouck-Ypres. 9 octobre, la place d'Anvers capitule. L'armée belge de campagne qui était investie peut gagner la côte et le 11 octobre vient occuper la région entre Ypres et la mer. Le roi Albert fait connaître qu'il sera heureux de se prêter entièrement à la coordination que le général Foch avait mission d'établir entre les efforts de tous. Le plan allemand. Après la chute d'Anvers, les Allemands, poursuivant leur plan primitif, vont essayer de tourner le dispositif allié en allant au besoin jusqu'à la mer et prennent pour objectif Dunkerque, Boulogne, Calais. À la marche sur Paris succède, comme l'annonce la presse allemande, la marche sur Calais. Pour atteindre ce but, les Allemands ne concentrent pas moins de 600 000 hommes en Belgique et dans les Flandres. Les Français, informés de cette énorme manœuvre, appellent en Belgique toutes leurs réserves disponibles. 20 octobre, le transport de l'armée anglaise s'est effectué dans de bonnes conditions. Elle est complètement groupée dans la région d'Ypres. L'armée belge organise la ligne de l'Isère. tous ces mouvements des armées belges et anglaises ont été couverts par les deux corps de cavalerie française. On peut donc dire que le 20 octobre, la course à la mer est terminée, la barrière est établie. Il reste à la maintenir, ce qui donnera lieu à la bataille de l'Isère. 21 octobre, la situation des alliés est la suivante. À droite, les Anglais, trois corps d'armée. Au centre, les Français, trois divisions, les fusiliers marins, une brigade belge. À gauche, les Belges, six divisions. À l'extrême gauche, la 42e division française. En face de quoi, les Allemands disposaient, premièrement de la 4e armée, 6 corps d'armée, deuxièmement de la 6e armée, 5 corps d'armée. 22 octobre, pour déjouer le plan allemand, le général Foch, d'accord avec le maréchal French et le roi Albert, donne l'ordre d'attaquer. La bataille de l'Isère commence. Au nord, les Belges et les Français attaquent vigoureusement, mais une violente contre-attaque allemande, appuyée par une artillerie lourde formidable, arrête net leur offensive, et bientôt, il faut recourir à l'inondation pour endiguer la rue allemande. On ouvre les écluses de Nieuport et l'eau envahit toute la vallée de l'Isère entre Nieuport et Dixmude. Le 30 octobre, les Allemands se lancent néanmoins encore à l'assaut, mais ils sont arrêtés et le 2 novembre, ils sont obligés de repasser l'Isère après avoir abandonné une partie de leur artillerie. Au sud, dans la région d'Ypres, les Anglais, le 23 octobre, ont pris à leur tour l'offensive dans la direction générale de Courtrai. Du 23 au 28 octobre, elle se déroule dans d'excellentes conditions, mais à cette date, les Allemands, avec six corps d'armée, contre-attaquent vigoureusement et enfoncent le front anglais. C'est alors que le général Foch met à la disposition du maréchal French la valeur de trois corps d'armée français. Les Allemands attaquent de nouveau en force et obligent les Alliés à reculer. Le maréchal French, à ce moment, prépare son repli à l'ouest d'Ypres. Le général Foch parvient à lui faire abandonner ce projet, acte capital qui décida du succès. Les Alliés contre-attaquent et arrêtent les Allemands. Du 1er au 6 novembre, la bataille fait rage sur tout le front, mais malgré les efforts surhumains des Allemands, ils n'arrivent pas à percer. On continue à se battre, toutefois on peut dire que le 15 novembre, la grande bataille de l'Isère est terminée. Les Allemands n'ont pu passer et atteindre la mer, leur objectif. Leurs pertes sont énormes, la garde est décimée et plus de 250 000 hommes à terre. Du côté des Alliés, elles sont aussi considérables. De part et d'autre, on est épuisé, mais on s'organise. Cette immense bataille de l'Isère était la conclusion de la course à la mer. Les Allemands, après avoir essayé sans succès de tourner la gauche des Alliés, avaient ensuite entrepris cette marche nach Calais qui pouvait en effet, au point de vue stratégique, leur procurer des résultats considérables. Le 15 novembre 1914, ils sont obligés d'y renoncer. Cette bataille d'Ypres, si elle ne fut pas une victoire des Alliés, trop décimés pour l'exploiter, fut bel et bien, pour les Allemands, une défaite caractérisée. Le succès est nettement dû au général Foch, qui, sans titre officiel, avait su imposer sa volonté aux Alliés dans la conduite des opérations par son énergie, sa ténacité, son inaltérable confiance. En résumé, c'est lui qui, de tout point, dirigea la gigantesque bataille de l'Isère et lui qui la gagna. Si elle avait été perdue, c'est lui qui en aurait porté la responsabilité. Je n'ai pas à faire apparaître ici les sombres réalités de notre situation d'avant-guerre. On sait que le premier effet de notre impréparation fut d'ouvrir le territoire français à l'ennemi. Personne ne s'est présenté jusqu'ici pour prendre la responsabilité de notre manque d'artillerie lourde à tir rapide, ainsi que la scandaleuse insuffisance de nos mitrailleuses, faute si grave que, sans les réactions de la Marne, de la frontière à Paris, notre territoire se trouvait emporté. Si beau qu'il fût, le redressement de la défaite ne pouvait épuiser l'élan de l'offensive ennemie. Le résultat de la première bataille fut de décider que la guerre se poursuivrait en territoire français où les armées allemandes se mirent à organiser le ravage systématique de nos villes industrielles et de nos campagnes avec l'asservissement des populations. Qui donc est responsable de cette faute initiale? Ne peut-on nous le dire ou tout au moins feindre de le chercher? Si jamais l'historien s'avise de poser timidement cette question, j'en profiterai pour lui en poser une autre. Était-il interdit de prévoir que l'Allemagne ferait faillite à sa propre signature en violant la neutralité belge? Qu'est-ce donc qui pouvait l'empêcher de prendre à cet effet certaines dispositions militaires? Qui donc ne connaissait l'état d'esprit allemand? Qui donc pouvait croire qu'un obstacle moral était de nature à arrêter hommes ou chefs un seul moment? J'ai eu sous les yeux l'ouvrage du général Foch sur les principes de la guerre. J'ai vu avec effroi qu'il n'y était pas dit un mot de la question de l'armement, une métaphysique de la guerre. Il n'est cependant pas indifférent de savoir si l'attaque de la catapulte ou du canon à tir rapide peut nous mettre dans le cas de varier nos moyens de défense. Des questions de cet ordre valent cependant qu'on s'y arrête. Quelle différence des états d'âme de l'un et de l'autre côté du Rhin! En Allemagne, tous les excès d'autorité pour machiner l'homme en vue de la plus violente offensive. Chez nous, toutes les dispositions de l'indolence et le repos sur de grands mots. Les lettres échangées entre le roi d'Angleterre et M. Poincaré à l'heure de la déclaration de guerre témoignent suffisamment des communes angoisses des peuples intéressés. Habile et prudemment rédigée, la lettre de M. Poincaré était en somme une demande de secours. Amicale mais évasive, la réponse de George V aboutissait à un refus provisoire de concours. L'Angleterre, encore moins préparée que nous, comprenait tardivement qu'elle allait jouer sa partie. Qu'il lui vint une heure de fléchissement et tout pouvait être perdu. La violation du territoire belge devait mettre un terme à ses hésitations. Les préparations d'alliance pour une guerre inévitable s'annonçaient dans l'incohérence. Il en pouvait être autrement puisque l'avantage d'une prévision organisée ne se manifesta que du côté allemand, maître de l'offensive. Aussi, le premier mouvement des alliés, aux heures difficiles, fut-il d'une réclamation universelle en faveur d'une suprême autorité militaire. Mais toute armée est l'expression supérieure du nationalisme en action. Les chefs de la puissance nationale qu'elle représente ne cèdent pas aisément sur ce point, et ce fut même du peuple le moins militaire, le peuple américain, qu'au moment décisif survint les plus grandes difficultés d'exécution. Dès le début de la guerre, en France, le sentiment populaire avait mis l'espoir du succès dans l'unité du commandement, et lorsque l'expérience ainsi que le raisonnement s'accordèrent sur ce point, il ne resta plus qu'à s'entendre sur le choix du stratège. Il n'y eut jamais, à ma connaissance, l'ombre d'un débat sur le principe, pas plus que sur le personnage à qui le poste éminent pouvait être confié. Point de concurrent, le nom seul de Foch fut prononcé. Le principal est que Foch avait développé des qualités de premier ordre en de dures rencontres qui appelaient surtout des miracles de résistance, tandis que Mangin, avec ses violences de caractère, avait pu fournir des miracles d'offensive. Tous les deux avaient logiquement ce grave défaut de ne pouvoir supporter le pouvoir civil lorsqu'ils n'en avaient pas besoin. Pétain, qui n'était pas un moins grand soldat, avait des jours éclatants et des jours d'équilibre. En de mauvaises rencontres, je l'ai trouvé d'héroïsme tranquille, c'est-à-dire maître de lui-même. Peut-être sans illusion, mais sans récrimination, il était toujours prêt au sacrifice personnel. J'ai plaisir à lui rendre cet hommage. On lui a beaucoup reproché les propos pessimistes de son état-major. La vérité est, je crois, que le pire ne lui faisait pas peur et qu'il l'envisageait sans effort dans une inébranlable sérénité. Mais son entourage faisait trop facilement accueil aux mauvaises paroles. Quelques embusqués d'état-major s'emparaient la boutonnière avec des conclusions qui n'étaient pas celles du chef, inébranlablement demeuré grand soldat. Cette effroyable guerre nous a fait apparaître de bons généraux, et beaucoup de ceux qui ont le droit de hasarder un jugement nous diront peut-être que Foch est le plus complet d'entre eux. Les esprits simples, qui sont le nombre, aiment à juger les hommes en bloc, d'une qualification approximative qu'ils veulent définitive. Mais la nature humaine est trop complexe, trop variable, pour se prêter d'emblée à ces procédures sommaires, d'où la plus belle sincérité n'arrive pas toujours à dégager la véritable formule d'une énergie en cours. Le général Foch, qui n'était pas surabondant en nuances, possédait-il, à côté des talents stratégiques, les aptitudes de diplomatie d'un chef international? Mais n'anticipons pas. La difficulté venait surtout du côté britannique, où notre influence militaire était d'autant plus grande que nous n'en faisions pas étalage. Je demeurais très sobre de conversation à cet égard, sachant d'ailleurs, par notre constant ami Lord Milner, que le problème allait lentement mais sûrement vers l'heureuse solution. C'était revenir de loin. Nous avions eu trop de guerres avec les Britanniques pour que l'idée de mettre leurs soldats sous le commandement d'un Français leur parût aisément tolérable. Le jour où j'en parlais pour la première fois au général Sir Douglas Haig, en déjeunant à son quartier général, le soldat se leva comme mu par un ressort, et les deux mains au ciel s'écria « Monsieur Clémenceau, je n'ai qu'un chef, et je ne puis en avoir qu'un, c'est mon roi !» Mauvais début. Les conversations suivirent, sans donner de résultat, jusqu'à la journée de Doulan, où, sous la pression des événements, Lord Milner, après un bref colloque avec le maréchal Haig, m'annonça que l'opposition au commandement unique était abandonnée. Le reste suivit, mais il fallut encore plusieurs étapes pour arriver à une formule qui réalisa, approximativement, toutes les conditions d'efficacité supérieure aux mains d'un chef unique. La résistance en Angleterre venait moins de l'armée que du Parlement et surtout de l'homme de la rue. L'idée de voir un général français commander à des généraux britanniques leur fut longtemps insupportable. L'argument semblait plus topique lorsqu'on alléguait notre commun insuccès de 1917 sous le commandement provisoire du général Nivelle. Mais ce n'était là qu'un argument d'apparence, valable seulement parce qu'on n'osait pas formuler l'argument du fond. C'est à Doulan que Foch, sans la permission de personne, s'imposa pour le commandement. Pour cette minute, je lui demeurerai reconnaissant jusqu'à mon dernier souffle. Nous étions dans la cour de la mairie, sous les yeux d'un public frappé de stupeur qui, de toutes parts, nous posait cette question. Les Allemands viendront-ils à Doulan? Tâchez qu'ils n'y viennent pas. Parmi nous, le silence coupé soudainement de cette exclamation d'un général français qui, me désignant Sir Douglas Haig à proximité, me dit tout bas « En voilà un qui sera obligé de capituler en rase campagne avant 15 jours, et bien heureux si nous ne sommes pas obligés d'en faire autant. » D'une bouche autorisée, ce propos n'était pas de nature à confirmer la confiance dans laquelle nous voulions nous obstiner. Une rumeur, Foch arrive, entouré d'officiers, et de sa voix coupante, dominant tout, « Vous ne vous battez pas, moi je me battrai sans arrêter, je me battrai devant Amiens, je me battrai dans Amiens, je me battrai derrière Amiens, je me battrai tout le temps. » Il n'est pas besoin de commentaire à ce discours. J'avoue que pour moi, j'eus beaucoup de peine à ne pas tomber dans les bras de ce chef admirable au nom de la France en suprême danger. À l'heure où nous avions retrouvé Foch, disgracié, au poste de chef d'état-major général, il avait déjà inscrit à son compte deux grandes actions d'éclat dans l'ordre de la résistance. Sur la Marne et sur l'Isère, il avait atteint au plus haut dans la résistance éperdue qui, par l'autorité de sa parole, avait fixé le maréchal French sur le terrain de la bataille et, par son seul exemple, il avait maintenu sa troupe invincible sous l'effort terrible de l'ennemi. Les Allemands avaient résolu de vaincre à tout prix. Immuable dans l'extrême péril, Foch avait jeté ses hommes jusqu'aux extrémités de la folle bravoure qui emporte le combattant au-delà du devoir. Ce jour-là, ils entrèrent tous ensemble dans la gloire des héros de l'Antiquité. Enfin, dans la conférence de Doulan, dont les péripéties ont été maintes fois racontées, on finit par s'accorder sur ce texte. Le général Foch est chargé par les gouvernements britanniques et français de coordonner l'action des armées alliées sur le front occidental. Il s'entendra à cet effet avec les généraux en chef qui sont invités à lui fournir tous les renseignements nécessaires. Ce n'était qu'une amorce, mais décisive. Le titre de commandement en chef n'était pas encore accepté par les Anglais. À Beauvais, je proposai de charger le général Foch de la direction stratégique, et la formule fut acceptée. Le texte du nouvel accord fut le suivant. Le général Foch est chargé, par les gouvernements britanniques, français et américains, de coordonner l'action des armées alliées sur le front occidental. Il lui est conféré, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires en vue d'une réalisation effective. Dans ce but, les gouvernements britanniques, français et américains confèrent au général Foch la direction stratégique des opérations militaires. Sur la demande des Anglais, on ajouta la phrase suivante. Les commandants en chef des armées britanniques, françaises et américaines exercent dans sa plénitude la conduite tactique de leurs armées. Chaque commandant en chef aura le droit d'en appeler à son gouvernement si, dans son opinion, son armée se trouve en danger par toute instruction reçue du général Foch. Afin de préciser les avantages attachés au titre finalement obtenu, je priai le général Foch d'écrire aux gouvernements alliés. Dans ses lettres, il faisait valoir cet argument. Il me faut persuader au lieu de diriger. Un pouvoir de direction suprême me paraît indispensable à l'achèvement du succès. Tout cela prit du temps. Sur mes instances réitérées, j'obtins enfin une réponse de M. Lloyd George. Le gouvernement anglais ne voyait plus, disait-il, aucun inconvénient à ce que le général Foch prît le titre de commandement en chef des armées alliées en France. Le même jour, l'excellent général Bliss, après une entrevue avec le général Mordack à Versailles, me faisait dire, au nom du président des États-Unis, « Je me porte garant que notre gouvernement ne verra que des avantages dans l'unité du commandement. » Pour moi, il s'agissait moins des formules que des actes qui en dérivent. Déjà à Clermont, le général Pershing était venu se mettre à la disposition de son nouveau chef avec une émouvante allocution dont le souvenir est resté vivant parmi nous. En même temps, le général Pétain s'était hâté de venir lui aussi prendre les ordres du général Foch. De toutes parts, l'accord s'annonçait, on était aux portes de l'action décisive. De savoir quel usage fut fait de ce commandement supérieur, c'est une question que l'histoire militaire aura charge d'éclairer. Pour beaucoup de raisons, je ne suis pas convaincu qu'il ait joué, dans la conduite de la guerre, le rôle décisif que l'opinion publique incline à lui prêter. Il faudra que cette histoire soit écrite par d'autres que ceux qui l'ont vécue. Il faudra nous dire quelle somme d'obéissance fut demandée et obtenue, et dans quelles circonstances et pour quels résultats. Mais nous n'en sommes pas encore arrivés là. Il faut bien dire que, dans l'exercice du commandement unique, le généralissime, parfois, s'est abandonné à des hésitations, à des tempéraments d'autorité propres à laisser dans le flottement les résultats attendus. D'autre part, je crois pouvoir dire que le commandement de l'armée britannique ne se soumit jamais complètement aux directives du général Foch, trop inquiet peut-être d'éviter toute difficulté avec les deux grands chefs qui lui étaient théoriquement subordonnés. Et puis vint le mauvais jour du chemin des dames. Pour obtenir de nouveaux effectifs et confirmer l'autorité du général Foch, je fis insérer dans le message des chefs de gouvernement à M. Wilson la phrase suivante. Nous estimons que le général Foch, qui mène la campagne actuelle avec une habileté consommée et dont le jugement militaire nous inspire la plus grande confiance, n'exagère pas les nécessités actuelles. Le principal embarras vint à ce moment de Sir Douglas Haig, qui, suivant son habitude, ne voulait pas permettre au généralissime de déplacer des réserves de l'armée anglaise pour en faire usage sur le front français. Les Anglais voulaient surtout protéger les ports de la Manche, rien de plus naturel. Le général Foch, qui avait des divisions françaises dans les Flandres, ne voulait pas les rappeler parce que c'était là qu'il attendit l'attaque allemande avant et après l'effondrement du chemin des Dames. Il me saisit de la question. Je m'étais interdit les discussions d'ordre purement militaire, mais j'avais le droit, et même le devoir, de m'enquérir pour savoir si le commandement suprême fonctionnait à souhait.